France Culture.
Très précisément 18h sur France Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Où sont donc passés les électeurs? La participation pour le premier tour des élections municipales s'annonce en nette baisse par rapport à 2014, avec 48,9% de participation à 17h. Il faut dire que la campagne a été quelque peu éclipsée par le conflit au Moyen-Orient. Le gouvernement israélien entend bien poursuivre ses frappes sur l'Iran et le Liban. Il vient d'approuver une rallonge massive à son budget militaire. L'appel de Donald Trump à la rescousse dans le détroit d'Ormuz, entendu au Royaume-Uni, qui réfléchit à la manière d'y garantir la sécurité du transport maritime. Et ce, malgré les menaces de l'Iran contre toute action pouvant étendre la guerre. Enfin, nous irons à Rome, à la fin de ce journal, découvrir la première grande rétrospective consacrée à Agnès Varda. Les 48 millions d'électeurs français ne se sont donc pas bousculés depuis ce matin dans les bureaux de vote pour désigner leur prochain maire. Le taux de participation à 17h est de 48,9% d'après le ministère de l'Intérieur. Bonsoir Chloé Geffroy.
Bonsoir Julie.
Alors c'est mieux qu'en 2020, on se souvient que la participation au premier tour avait souffert de la crise sanitaire, mais cette participation est moindre par rapport au scrutin de 2014, Chloé.
Avec un chiffre sous la barre des 50%, en très nette baisse effectivement par rapport au dernier scrutin 2014. 2008, 2001. À titre de comparaison, il y a 12 ans, en 2014, le taux de participation s'élevait à 54,7%. On connaîtra à 20h le taux de participation final de ce premier tour. Notre partenaire Ipsos BVA Saisie École d'ingénieurs l'estime à 56% contre 63% en 2014. Alors, est-ce le signe d'une lassitude des électeurs ou d'une campagne éclipsée par le Moyen-Orient? Ce qui est certain, c'est que les électeurs, notamment les jeunes et les habitants de quartiers populaires votent de moins en moins depuis plus de 40 ans. Si l'on met de côté le scrutin très particulier de 2020, marqué par la pandémie de Covid et une abstention historique, dans les années 80 par exemple, 8 Français sur 10 se mobilisaient pour cette consultation parmi les plus populaires de la République. La journée de vote du premier tour de ces municipales 2026 touche donc quasiment à sa fin. Certains bureaux de vote ferment à l'instant. Dans les grandes villes, ils restent encore ouverts jusqu'à 19h ou 20h. C'est à ce moment-là que les premières estimations et les premiers résultats seront dévoilés.
Explication de Chloé Geffroy. Et France Culture se mobilise ce soir pour vous faire vivre ces élections municipales dès 19h30. Premières estimations avec notre partenaire Ipsos BVA. Analyse et décryptage en région et en studio autour d'universitaires, de politologues et de sociologues invités de Jean Lemarie et d'Astrid De Villene. Deux frères mis en examen dans le Pas-de-Calais aujourd'hui par le parquet national antiterroriste. Âgés de 20 et 22 ans, ils sont soupçonnés d'avoir nourri un projet terroriste dont le caractère mortifère et antisémite apparaît établi, indique le PNAT cet après-midi dans un communiqué. Ces deux frères ont été arrêtés mardi matin dans une voiture stationnée près de la prison de Longuenesse. À son bord, les policiers ont découvert des armes, un drapeau de l'organisation État islamique et des produits pouvant servir à la confection d'engins explosifs. La guerre au Moyen-Orient se poursuit. L'armée israélienne continue ses frappes sur le territoire iranien, mais aussi au Liban. 4 personnes ont été tuées ce matin dans le sud du pays, dont un responsable du Hamas dans la région de Saïda. Ces frappes israéliennes ont fait 850 morts au Liban depuis le 2 mars, dont 107 enfants, d'après un dernier bilan des autorités libanaises. Le Hezbollah dit d'avoir riposté en visant une base aérienne du centre d'Israël, aujourd'hui à l'aide d'un missile sophistiqué. Et si le Liban se dit prêt à négocier avec Israël pour mettre un terme à la guerre contre le Hezbollah, aucune négociation directe n'est pour l'heure prévue, assure le chef de la diplomatie israélienne. Ce qui est bien prévu, en revanche, c'est l'achat d'armes supplémentaires. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous.
En direct de Jérusalem pour France Culture, le gouvernement israélien vient ainsi d'approuver une enveloppe de 827 millions de dollars pour des achats militaires d'urgence.
Oui, une rallonge massive que le gouvernement israélien vient d'allouer à son budget militaire. Alors officiellement, il s'agit de garantir la pérennité de l'effort de guerre, mais cette annonce intervient dans un climat de doute. Selon le site d'information Sémaphore, Israël aurait alerté Washington d'une pénurie critique de missiles intercepteurs, notamment pour le système Arrow 3, dont chaque unité coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. L'intensité des combats et le retard technologique du bouclier laser Ion Beam auraient épuisé les stocks, notamment du dôme de fer. Pourtant, côté israélien, l'armée dément fermement. Aucun problème d'intercepteur, assure des sources militaires. affirmant que le pays est paré pour la durée, une durée qui s'étire. Le général Efi Defrin, le porte-parole de l'armée israélienne, vient de prévenir que l'offensive contre l'Iran se poursuivra au moins jusqu'à la Pâque juive, début avril, avec des milliers de cibles encore en ligne de mire. Israël se prépare donc désormais à un conflit de haute intensité pour au moins 3 semaines supplémentaires.
Michel Paul, journaliste de RFI à Jérusalem pour France Culture. Mais alors que les yeux sont rivés sur le Liban et sur l'Iran, dans la bande de Gaza, ce sont 4 membres d'une même famille, dont une femme enceinte, qui ont été tués dans une frappe de l'armée israélienne sur le camp de Nouzerat, dans le centre du territoire, d'après la défense civile de Gaza. Et les violences se multiplient aussi en Cisjordanie occupée depuis début mars. Un couple et leurs 2 jeunes enfants ont été tués par des tirs de l'armée israélienne la nuit dernière à Tamoun. Tandis qu'en Iran, l'Iran n'a aucune raison de négocier avec les États-Unis, affirme aujourd'hui le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui dément donc les propos de Donald Trump hier. Le président américain affirmant que Téhéran voulait conclure un accord pour mettre fin à la guerre. Et après son appel à la rescousse pour sécuriser le détroit d'Ormuz, eh bien le Royaume-Uni y réfléchit et pourrait même envoyer des navires et des drones pour ouvrir les voies maritimes essentielles malgré les menaces de Téhéran. Les précisions à Londres depuis de notre correspondante Gaëlle Joly.
Le Royaume-Uni pourrait déployer des milliers de drones chasseurs de mines pour tenter de rouvrir le détroit d'Ormuz. Le secrétaire d'État à l'énergie a souligné ce matin que c'était une priorité pour le monde et que les responsables militaires examinaient toutes les options. Le pays pourrait également envoyer, selon la presse, ses systèmes anti-drones sophistiqués Octopus, fabriqués chaque mois ici pour l'Ukraine, mais utilisés cette fois contre les drones chahides iraniens au Moyen-Orient. Une façon pour le Premier ministre Keir Starmer de contrer les critiques de Donald Trump sur la lenteur de sa réaction à la guerre en Iran et aussi la faiblesse du déploiement de ses navires au Moyen-Orient. La semaine dernière, un destroyer est parti en mer de Chypre. Le gouvernement envisage aussi d'envoyer un autre navire dans le Golfe mais n'a toujours pas pris sa décision. Le ministère iranien des Affaires étrangères a tout à l'heure mis en garde le Royaume-Uni de participer à cette force navale américaine. Ce serait une complicité dans le crime d'agression et cela entraînerait une réponse de l'Iran.
18h07 sur France Culture et Agnès Varda est à l'honneur en Italie. Une grande rétrospective lui est pour la première fois consacrée à la Villa Médicis de Rome. Baptisée ici et là entre Paris et Rome, elle retrace 2 moments de la vie de la cinéaste et photographe. En 1959, lorsqu'elle fait des repérages à Venise pour un projet de film finalement abandonné. Et en 1963, elle revient pour documenter comme photographe une des plus belles pages de l'histoire du cinéma. À Rome, Bruno Duvic.
Venise, vue par Varda, c'est une ville en clair-obscur, populaire et inquiétante à la fois. Femme de pêcheur, gamin hâbleur, passage sombre, drap dans les ruelles, Carole Sandrin a rassemblé ses photos.
Elles sont presque habitées de ce bruit du vent. Elle est attirée par l'insolite ou le bizarre.
Deuxième volet de l'exposition. Un magazine commande à Agnès Varda un portrait de Luchino Visconti, l'année du guépard. Il pose l'air sévère au milieu de ses chiens chez lui à Rome. Nous sommes au moment où l'histoire du cinéma s'écrit en Italie. Une planche contact et un agenda en témoignent.
Dans l'agenda, il est indiqué Jean-Luc tourne en extérieur, Cinecittà, à Rome. Elle a rendez-vous avec Visconti. Jean-Luc, c'est l'ami Jean-Luc Godard. Qu'est-ce qu'il tourne ? Le mépris. Elle se rend à Cinecittà. La planche contact raconte ça. On voit sur les 3 premières bandes, Visconti encore chez lui. Tout à coup, dans la 4e bande de négatif, bam ! La lumière, Bardot qui apparaît tout à coup d'un seul, Godard, Piccoli, toute la légende du cinéma qui se retrouve en une planche.
L'Italie d'Agnès Varda, c'est une petite salle comme un écrin à la Villa Médicis à Rome jusqu'à la fin mai.
Bruno Duvic, correspondant de France Culture en Italie. Et puis un mot pour vous dire que l'acteur Bruno Salomone est décédé aujourd'hui à l'âge de 55 ans des suites d'une longue maladie. Connu pour son rôle de Papa Bobo dans la série Fais pas ci, fais pas ça, ce comédien de cinéma, de télévision et de théâtre avait commencé sa carrière comme humoriste au sein de la troupe Nous c'est nous, aux côtés de Jean Dujardin qui rend hommage ce soir à son frère, dit-il. La météo demain matin avec le retour des nuages par le nord-ouest qui apporteront quelques gouttes jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Le soleil restera plus généreux sur le sud-est, bien que voilé en début de matinée. Les gelées seront fréquentes au réveil de l'Alsace-Lorraine à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures afficheront 1 à 6 degrés en moyenne sur les autres régions. C'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Beneteau et Anthony Thomasson à la technique.